France Culture.
Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les effets concrets et brutaux de la politique de Donald Trump dans l'administration américaine. Fonctionnaires licenciés, public défavorisé, abandonné. Reportage dès le début de ce journal.
Les décisions américaines sont également redoutées en Europe, en particulier sur le conflit ukrainien.
Et puis en France, nous examinerons la proposition de loi de Gabriel Attal présentée aujourd'hui aux députés et qui prétend lutter contre la délinquance des mineurs. Marguerite Caton, quelle question du jour après ce journal.
On parle de corruption. La France a-t-elle particulièrement mauvais élève ?
Réponse à partir de 7h15. Des vies bouleversées du jour au lendemain et aucune certitude concernant l'avenir. Ce sont les effets concrets pour plusieurs milliers d'Américains des décisions brutales de Donald Trump à son arrivée au pouvoir. En particulier sa politique concernant les administrations publiques accusées de gaspiller l'argent des Américains et confier ces administrations aux bons soins de l'homme le plus riche du monde. Elon Musk qui a donc commencé à démanteler méthodiquement l'État fédéral. À la tête d'un service spécial, le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE en anglais, qui s'emploie à supprimer les services et donc les missions de plusieurs agences. Des fonctionnaires américains, mais aussi des employés d'entreprises privées travaillant pour le gouvernement ont ainsi été licenciés. Et des personnes défavorisées qui étaient prises en charge par des centres de santé, notamment, ont été abandonnées. Illustration avec ce reportage de notre correspondant aux États-Unis, Simon Le Baron.
Nous sommes devant l'un de ces centres à Richmond, en Virginie, à 2 heures de route de Washington. Petit bâtiment de briques rouges.
Oh, there is a sign.
Avec un panneau sur la porte.
Il est écrit que le centre médical restera fermé jusqu'à nouvel ordre.
Brian Armbrust dirige l'association communautaire qui aide les gens du quartier, l'un des plus pauvres de la ville. En majorité, des Afro-Américains comme Chrissy, appuyée sur sa canne.
I have heart disease.
Elle énumère ses problèmes, très courants ici. Problèmes cardiaques, diabète, asthme, arthrose. Mais je bouge encore, sourit Chrissy.
Oui, le centre de santé. Bien sûr qu'on en a besoin. Parce que beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour aller chez les médecins normaux. S'ils ferment les endroits comme celui-là, il ne nous reste rien.
Brian ne peut que confirmer.
Nous sommes la seule zone de Richmond, la capitale de l'État de Virginie, qui n'a pas d'école publique, pas de bibliothèque, pas d'épicerie, pas de pharmacie, pas de distributeur de billets et maintenant plus de centre de santé.
32 millions d'Américains sont régulièrement soignés dans ce type de centre. Nous voici désormais à Arlington, ville plus huppée à deux pas de la capitale. Depuis 10 jours, Sarah est en congé sans solde.
Un jour, j'ai un boulot et j'ai un appartement et tout va tellement bien. Et le jour d'après, je suis assise dans le café où j'avais l'habitude de venir travailler. Mais je suis au chômage et je remplis des CV. C'est très perturbant.
Cela faisait 3 ans qu'elle travaillait pour un sous-traitant de l'énorme agence américaine de développement, quasi supprimée du jour au lendemain. Sarah a 29 ans.
Je pense que je vais devoir retourner vivre chez mes parents. En Virginie, il y a une assurance chômage, mais elle est de 1500 ou 1600 dollars par mois. Ça ne couvre même pas le loyer.
Ses parents, justement, eux aussi sont dans le collimateur. Ils travaillent pour le département de la Défense. Sarah ne veut pas en dire plus, peur des représailles. Elle résume en un mot le climat qui règne à Washington. La paranoïa.
Simon Le Baron, paranoïa illustrée avec cette liste d'une cinquantaine de fonctionnaires américains, liste diffusée par un groupe conservateur qui leur reproche d'avoir encouragé des politiques d'inclusion des femmes et des minorités raciales ou sexuelles. Une liste noire délatrice alors que Donald Trump a lancé une vaste offensive contre tous les programmes d'inclusion gouvernementaux. Enfin, hier, Elon Musk a justifié son programme de réduction drastique du nombre de fonctionnaires en faisant une visite surprise dans le bureau Oval, où il a précisé que les agences gouvernementales ne pourront pas embaucher plus d'un employé pour 4 départs, sauf pour ceux travaillant à la lutte contre l'immigration. Le tout représenterait, selon le multimilliardaire, quelques 1 000 milliards de dollars d'économies. Et puis, quelle sera la position américaine sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Alors que s'approche vendredi la conférence de Munich sur la sécurité européenne et qu'hier, le président ukrainien Zelensky commençait à envisager, dans le journal anglais Guardian, un échange de territoire avec la Russie. C'est la première fois que le président ukrainien formule aussi clairement cette idée sans entrer dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que le futur de l'Ukraine va grandement dépendre des décisions américaines et que face à cela, les Européens tentent de resserrer les rangs. Plusieurs ministres des Affaires étrangères se retrouvent cet après-midi à Paris pour redire leur soutien sans faille à Kiev. Autour du français Jean-Noël Barrot, les représentants de l'Allemagne, de la Pologne, ce qu'on appelle le format Weimar, mais aussi de l'Italie, de l'Espagne, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, Isabelle Labéry.
C'est sans doute leur pire cauchemar, assister impuissant à un deal scellé d'une poignée de main vigoureuse entre les présidents américains et russes, un accord de paix à la hussarde et à haute teneur commerciale, négocié au détriment de la souveraineté ukrainienne et de la sécurité des 27. Ce soir, les Européens, quoique en format réduit, poseront donc un nouveau jalon pour dire collectivement leur soutien à Kiev, mais aussi pour affiner, affirmer leur stratégie en matière de défense. Ils veulent surtout rappeler que le désengagement américain ne doit pas se faire au mépris de garanties indispensables, histoire que Vladimir Poutine ne puisse pas attaquer à nouveau l'Ukraine, histoire que les citoyens polonais, baltes, suédois ou finlandais ne soient pas contraints d'ici quelques années, soit d'apprendre le russe, soit de déménager en Nouvelle-Zélande. L'expression est de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Dans les discussions qui s'accélèrent, il est désormais moins question d'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance que d'un déploiement de troupes sur le terrain pour surveiller l'application d'un éventuel cessez-le-feu. Sous pression, Volodymyr Zelensky s'empresse de donner des gages à Washington, mais côté américain, aucun scénario n'est encore arrêté.
Et puis on apprend ce matin que des frappes russes ont frappé 5 districts de Kiev cette nuit, faisant au moins un mort et 3 blessés. Elle ne tient plus qu'à un fil, la trêve à Gaza, entre Israël et le Hamas. Hier, lors d'une allocution vidéo, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a redit, à l'instar d'ailleurs du président américain, que si le Hamas ne rendait pas les otages encore retenus ce samedi, comme prévu par l'accord de trêve, alors la guerre reprendrait. Le Hamas, on le rappelle, accuse Israël de ne pas respecter les conditions du cessez-le-feu et a menacé de faire de même en retardant la libération des otages. Les précisions depuis Jérusalem de Thibault Lefèvre.
Le Premier ministre israélien a pris la parole après 4 heures de réunion du cabinet de sécurité.
Si le Hamas ne rend pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et Tsahal reprendra des combats intenses jusqu'à la défaite finale du Hamas.
Et contrairement à Donald Trump, il n'a pas parlé de tous les otages encore à Gaza, ils sont 74, mais de nos otages, laissant ainsi planer le doute sur les nouvelles exigences israéliennes. En vertu de l'accord, 3 hommes doivent être libérés samedi contre plus d'une centaine de détenus palestiniens. Lundi, le Hamas a décidé de suspendre cette 6e vague d'échanges pour s'opposer à ce que l'organisation islamiste considère comme des violations de l'accord. La réponse n'a donc pas tardé et elle met clairement en péril une trêve déjà fragile. L'armée israélienne se prépare par ailleurs à reprendre les combats. Elle était déjà en état d'alerte maximale et avait suspendu les permissions de ses soldats. Benjamin Netanyahou a annoncé qu'elle rappelait des réservistes, certains pour la 4e ou la 5e fois depuis l'attaque terroriste du 7 octobre.
Thibault Lefèvre.
7h08 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Les combats ont repris dans l'est de la République du Congo.
Entre les rebelles du M23, alliés du Rwanda, et les soldats congolais du gouvernement Tshisekedi, après pourtant une courte accalmie qui avait suivi un appel au cessez-le-feu des dirigeants africains de la région, dirigeants réunis en sommet en Tanzanie samedi dernier. Les précisions de notre envoyé spécial à Goma en RDC, Omar Waman.
Dans la région, rares sont les appels au cessez-le-feu qui sont respectés. Celui-ci n'a donc pas fait exception. La ville de Goma, désormais sous le contrôle du M23, c'est Bukavu que les rebelles veulent conquérir. Hier matin, à l'aube, épaulés par l'armée rwandaise, ils ont attaqué des positions de l'armée nationale congolaise situées à moins de 70 km de la capitale du Sud Kivu et à moins de 40 km de l'aéroport de la province. Un lieu stratégique utilisée par Kinshasa pour acheminer renforts et matériels dans la région. Ce nouvel assaut vise à montrer la détermination des rebelles à poursuivre leur avancée tant que Félix Tshisekedi refusera de négocier avec le président congolais, qui les qualifie de pantins à la solde de Kigali, rejette les appels à dialoguer avec le M23, ce qui, selon lui, renforcerait l'influence de son ennemi et voisin, le Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo, dont le sous-sol regorge de minerais.
On passe à l'actualité en France avec cette proposition de loi qui sera examinée par les députés aujourd'hui, conçue après les émeutes de l'été 2023, consécutive à la mort de Naël tué par des policiers. À l'époque, c'est Gabriel Attal qui était Premier ministre et c'est lui qui, redevenu député, porte ce texte de loi sur la lutte contre la délinquance des mineurs. On se souvient de sa déclaration à l'époque: tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Peu après son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, présentait un texte avant que ne survienne la dissolution. Un an après, donc, une proposition de loi largement vidée de sa substance revient devant les députés. Les précisions de Cyril Ardot.
Dans sa première mouture, la proposition de loi introduisait des sanctions pour les parents de jeunes délinquants, instaurait une procédure de comparution immédiate pour les mineurs et limitait l'excuse de minorité pour les 16-18 ans en cas de récidive. Jean Terlier, le rapporteur, ensemble pour la République du texte.
Ce que l'on crée à travers ces différents dispositifs, c'est des outils supplémentaires à la main du juge. Quand on constate qu'on a des mineurs qui commettent 10-12 infractions pénales, on doit permettre une réponse pénale plus sévère et qui est aussi également à la fois plus rapide.
Jean Terlier s'inquiète de la forte hausse du nombre de mineurs mis en cause dans des meurtres, plus 40% en 7 ans, quand la gauche brandit les chiffres du ministère de l'Intérieur qui note une baisse de 30% en 10 ans de la délinquance des jeunes, tous délits et crimes confondus. Le député écologiste Pouria Amirshahi, à l'origine de plusieurs amendements, dénonce un texte contre-productif.
Les jeunes mineurs, et ce depuis 1945, font l'objet d'un traitement spécifique. Pourquoi ? Précisément parce qu'ils sont mineurs. Or, qu'est-ce que propose Gabriel Attal ? Il propose de les enfoncer dans la délinquance, parce qu'il prévoit qu'on envoie potentiellement des mineurs de 16 ans en prison. Qu'est-ce que c'est que la prison ? D'abord, ce sont des conditions de vie épouvantables, effroyables. Et puis, la prison, c'est l'école de la récidive.
Le texte a été détricoté en commission, mais le rapporteur a déposé des amendements de rétablissement pour revenir aux articles d'origine. Et les rapports de force sont différents dans l'hémicycle. Le camp présidentiel devrait pouvoir compter sur les voix du Rassemblement national.
On reviendra sur cette proposition de loi en longueur dans le journal de 8 heures. Et puis hier, les députés ont adopté plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité, toujours dans les transports, dont l'autorisation pour les forces de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations ainsi que le port de caméras piétons par les contrôleurs. On termine ce journal avec cette émission culte de la télévision en France comme en Belgique qui souffle ses 40 bougies. Striptease, émission de documentaire sans commentaire, fait son retour pour l'occasion, mais pas à la télévision, sur le grand écran, avec un troisième long métrage de l'émission intitulé Striptease intégrale, qui sort en salle donc ce mercredi. On plonge dans l'univers d'une mère de famille obsédée par le zéro déchet ou dans celui des influenceuses de Dubaï. L'émission n'était plus diffusée depuis 2012. Écoutez Bertrand Fèvre, l'un des producteurs du film Striptease.
L'époque contemporaine ne mérite pas moins le regard striptease qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de synthé. On est dans du brut, mais tellement brut que parfois on a l'impression que c'est de la fiction. Le jugement que vous portez, vous, spectateurs, sur les vies de ces gens, il n'est pas guidé par ce qu'on vous en dit. Et ça vous est montré, vous êtes libre d'en penser absolument ce que vous voulez. Et je pense que striptease et son côté brut est pas adapté à la télé d'aujourd'hui. Je pense que c'est adapté au cinéma, parce que d'abord, le cinéma, c'est une démarche très, très volontariste d'aller au cinéma. Vous sortez de chez vous, vous mettez dans le noir pendant 1h30 sans faire autre chose, vous payez. C'est quelque chose de beaucoup plus exigeant et vous allez chercher ça. Et je pense qu'il y a un désir super fort pour striptease qui fait que la sortie en salle est tout à fait logique et cohérente. La télé de l'époque produisait striptease, en fait. Et c'était pour remplir une case dans un programme. Aujourd'hui, je ne vois pas quel programme spécifique mettrait toutes les semaines, tous les 15 jours, des striptease.
Des propos recueillis par Mercia Nézic. On termine avec un mot de météo, des nuages et de la pluie sur la façade ouest éclaircie du sud-ouest au centre cet après-midi. Comptez au plus chaud de 6 à 13 degrés. Je vous retrouve à 7h30 pour le journal de l'Écho. On parlera de micro-entrepreneurs. Pour l'heure, la suite des matins de culture, Guillaume Erner.
Mais oui, c'est ça, avec la question du jour de Marguerite Caton. Dans quelques secondes, Anne-Laure Chouin, corruption. La France est-elle particulièrement un mauvais élève ?